Bonjour, ici Fabio Lopez du site investir.ch et bienvenue dans cette chronique du mardi 21 septembre où nous abordons le thème du changement de paradigme lié au travail. Le travail est en effet une notion centrale tant au niveau de l'organisation sociale que de l'économie. Sa conception est pourtant appelée à évoluer radicalement face à la prolifération de ce qu'on appelle dorénavant les bullshit jobs. Alors, pour commencer, le travail est une notion sociale. En effet, tout le monde a entendu dire depuis l'enfance qu'il faut un bon travail pour réussir dans la vie. Après une période de formation, c'est l'entrée dans la vie active, autrement dit, le monde du travail. D'ailleurs, l'une des premières questions que l'on pose pour mieux cerner un inconnu porte habituellement sur son occupation professionnelle. Le travail que fait chaque personne est un marqueur social fort et celui qui n'a pas de travail est souvent déconsidéré. Qu'en est-il maintenant du travail en économie? Alors, l'économie s'intéresse aussi de près à tout ce qui touche au travail puisque c'est des concepts de base de la théorie économique aux côtés du capital. Dans la sphère économique, de nombreux indicateurs relatifs à la notion de travail sont étudiés, suivis, prédits, tant par les acteurs gouvernementaux que par ceux de l'industrie et du monde de la finance. Il suffit de voir chaque mois le nombre de publications portant sur les chiffres de l'emploi, la productivité ou le salaire horaire. Chiffres souvent mal estimés par les prévisionnistes, ce qui donne parfois lieu à quelques soubresauts dans les marchés financiers et à des annonces de banquiers centraux pour apaiser les peurs des investisseurs. Chiffres qui sont également révisés pour les mois précédents, moment où l'on se rend compte qu'on était encore plus à côté de la plaque avec les prévisions que ce qu'on pensait. Mais même lorsqu'on se doute que le chiffre est faux, on l'utilise pour définir des stratégies d'investissement. Réflexe pavlovien de macroéconomiste qui démontre à quel point les indicateurs relatifs au travail sont incontournables en économie et en finance. Le travail, quant à lui, implique aussi la rémunération, qui détermine la capacité à dépenser et à épargner d'un individu, y compris au travers du système de prévoyance. Bref, dès l'enfance et le choix des études jusqu'au jour du décès après avoir profité de sa retraite, le travail est un concept absolument central. Le travail a néanmoins connu des évolutions par étapes. Au départ était l'agriculture. Les livres d'histoire nous apprennent que durant des millénaires, l'humanité a travaillé la terre pour se nourrir. Ensuite, les techniques agricoles ont évolué, ce qui a permis une augmentation de la population mondiale, mais également une migration vers les villes afin de développer les activités artisanales, prémices des activités industrielles. Là aussi, progrès technique et gains de productivité aidant, une partie des travailleurs a migré de l'industrie vers les bureaux. L'essentiel des gains de productivité au cours de l'histoire ont été dus à la maîtrise des énergies. L'humain, l'animal, le bois, le charbon et ensuite le pétrole. Cette évolution a donc amené de plus en plus de personnes dans le secteur tertiaire. Le secteur des services qui repose sur des capacités plus intellectuelles que physiques connaît également d'énormes gains de productivité grâce à un type bien particulier de progrès technique, j'ai dit les ordinateurs. Si on regarde l'évolution du travail au cours des siècles, on se dit que, à l'instar des précédentes révolutions industrielles, une partie importante de la force de travail devrait maintenant migrer du secteur tertiaire vers un nouveau secteur, appelons-le quaternaire. Sauf qu'on n'est pas prêt. La quatrième révolution industrielle nécessite des compétences encore trop rares dans la population active pour envisager une migration massive de main-d'œuvre. Nous avons donc un gros problème. Et ce problème, c'est un embouteillage dans le secteur tertiaire. Donc comme l'a expliqué David Graeber, qui est professeur d'université et anthropologue américain spécialisé dans les questions d'économie, et également auteur de plusieurs ouvrages dont l'excellent Bullshit Jobs, cet entassement de travailleurs dans le secteur tertiaire est problématique. Évidemment, l'auteur est un intellectuel et anarchiste de gauche, ce qui biaise quelque peu ses avis sur l'utilité sociale, par exemple, d'un banquier ou d'un avocat. Mais cela mis à part, ses observations sur le monde du travail sont difficilement contestables, en plus d'être souvent totalement hilarantes. Pour ma part, je ne regarde que l'utilité économique, l'utilité sociale étant essentiellement perçue en fonction du biais philosophique de chacun. Alors, comme le dit Graeber, puisque le concept de travail est au centre de tout, il faut que la société soit en mesure de fournir du travail à tout un chacun. Et chaque individu a cette obligation de mettre sa force productive en œuvre au sein du système économique. C'est ce qui amène un nombre élevé de travailleurs du tertiaire à tout simplement faire semblant de travailler. Les fameux bullshit jobs, ou traduits en français par job à la con, dont l'utilité économique est remise en question par le travailleur lui-même. J'avais déjà fait remarquer en commentant récemment l'un ou l'autre post sur LinkedIn que le télétravail était un excellent révélateur de ces jobs à la con, puisque lorsqu'on est chez soi, on a moins besoin de faire semblant de bosser qu'au bureau et qu'agiter régulièrement la souris comme preuve de vie est largement suffisant. J'ai reçu en retour des commentaires assez sceptiques. Normal, je dirais, je vois mal qui se dénoncerait ainsi publiquement sur LinkedIn à rester chez lui, à ne pas travailler, alors qu'il est supposé faire du télétravail. Pourtant, des études indépendantes menées dans différents pays suite à la parution du premier article de David Graeber sur ce thème en 2013 ont indiqué qu'environ un tiers des employés du tertiaire estimaient avoir, au moins en partie, un job à la con. Autrement dit, qu'ils avaient l'impression que ce qu'ils effectuaient comme tâche assis derrière leur bureau ne servait strictement à rien, sauf à donner l'illusion qu'ils travaillent. Évidemment, d'aucuns vont s'insurger et dire que pas chez nous. Pour certains, ce sera un problème circonscrit aux administrations publiques ou à telle entreprise de grande taille, le petit entrepreneur dynamique ne pouvant évidemment pas se permettre de rémunérer des employés inutiles. Libre à chacun d'en penser ce qu'il veut, il est cependant probable qu'un certain nombre de personnes ont vécu par exemple cette situation où un premier intervenant fait mal son travail de manière systématique, au point qu'un deuxième intervenant plus qualifié soit nécessaire pour effectuer les corrections. Ne garder que le deuxième employé serait donc économiquement rationnel. C'est d'ailleurs ce genre de rationalité qui amène certaines entreprises à implémenter des méthodologies de type Lean, alors que d'autres préféreront garder les deux employés contre toute logique économique. Bref, les exemples sont nombreux où de toute évidence, il y avait moyen d'effectuer le travail avec moins de ressources, que ce soit en temps ou en main-d'œuvre, voire parfois ne pas du tout effectuer la tâche, puisque dès le début, son inutilité était avérée. Je prends un exemple au hasard, mettre à jour des PowerPoint que personne ne regarde jamais. Nous sommes donc face à une évolution difficilement imaginable du concept de travail, mais elle est de plus en plus nécessaire. Le problème, c'est que les progrès techniques et l'automatisation font qu'il y a de moins en moins besoin de travailleurs, mais en même temps, certains voudraient que le marché de l'emploi absorbe un nombre croissant de travailleurs. Car oui, c'est exactement ce qu'implique de repousser l'âge de la retraite. C'est d'ailleurs impossible, selon moi, d'y voir une solution réaliste au problème du financement à long terme du système de pension. Bien entendu, sur ce point, certains brandiront les dernières nouvelles du marché de l'emploi aux États-Unis, indiquant que les entreprises n'arrivent pas à trouver une main-d'œuvre suffisante. Vision, il faut dire, très biaisée, puisque hors poste technique de très très haut niveau, par exemple développeur blockchain, il s'agit essentiellement de jobs à très faible valeur ajoutée, tels que employé de fast-food, manutentionnaire ou employé de bureau non qualifié. D'ailleurs, mis à part l'exemple que j'avais trouvé d'un ancien ministre afghan devenu livreur Deliveroo, je crois, en Allemagne, je verrais mal un ancien analyste financier de 55 ans enfourcher son vélo pour commencer à livrer des pizzas. Et même si certains employés de bureau en quête de reconversion professionnelle décident de devenir consultants ou alors pour redonner du sens à leur vie, à leur travail, se tournent vers la production, je sais pas moi, de fromage bio, la gestion de chambres d'hôtes ou deviennent coach bien-être, cela reste marginal au niveau de la population active globale. Les autres, surtout les plus âgés qui maîtrisent moins bien les nouvelles technologies et qui coûtent plus cher en charges sociales, ne deviendront ni pilotes de drones ni développeurs d'applications mobiles pour blockchain. Mais ils devront travailler jusqu'à un âge de retraite qui aura été repoussé de quelques années encore, alors que le plus probable sera qu'une partie d'entre eux seront simplement au chômage ou bénéficiaires d'une autre allocation permettant de camoufler quelque peu les véritables chiffres de l'emploi. On comprend vite qu'un système de ce genre tourne à l'absurde, et ce de plus en plus vite. Donc, en conclusion, oui, voilà, il faudra imaginer de nouveaux indicateurs économiques relatifs au marché de l'emploi. Oui, il faudra aussi adapter le cadre, réglementaire, et il faudra surtout adapter les mentalités quant à la conception surannée que nous avons encore du travail et de la part qu'il devrait représenter dans la vie de chacun individu. Alors pour ma part, je ne sais pas comment, bon j'ai quelques idées, mais je n'ai pas de solution et j'espère qu'on commencera à y réfléchir rapidement, car pour paraphraser les sympathiques petits oiseaux Shaddock qui sont très philosophes, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de solution qu'il n'y a pas de problème. Alors je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici, je vous souhaite une excellente journée et je vous invite à retrouver nos autres articles sur notre site investir.ch.